des bêtises, tout le monde.
Ah bah ça, des bêtises. Notre vie est une bêtise. Bon, on va continuer. Je vais pas faire récap de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On sait qu'on voit les mines, les différents dangers que nous retrouvons sur notre chemin, justement, lors de cette marche dont on parle. Et ce soir, on commence ce troisième chapitre avec les mines de la jalousie et de l'envie. Et j'aimerais pouvoir en profiter justement pour préciser. On avait commencé avec l'orgueil, et si on prête attention aux autres mines qui vont suivre, il y en a beaucoup qui vont être affiliées d'une manière ou d'une autre à l'orgueil aussi. Donc si on arrive à laisser le Seigneur nous aider à vraiment avoir la victoire sur cet orgueil, cette fierté personnelle, ça va pas enlever toutes ces autres mines, mais ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Et mine de la jalousie, de l'envie, on peut très facilement voir la connotation, la connexion qu'il y a entre ça et l'orgueil de moi je veux ce que l'autre il a, moi je suis pas content que lui il l'ait, que moi je l'ai pas. Et on voit que, on sait que si on prend le temps de lire la Bible dans sa totalité, on retrouvera de multiples exemples dans la Bible de personnes qui se sont laissées emporter par la jalousie ou par l'envie. Et c'est vraiment rien de nouveau. Est-ce que vous pouvez penser à des exemples, hein, de jalousie dans la Bible?
Le premier cas.
Oui, Caïn et Abel. Sauf que dans mes notes, j'ai marqué Abel. Caïn et Abel,
Satan.
exactement. Pardon?
Jalousie, c'est Satan.
Non.
Oui, c'était l'orgueil plus,
Si, jalousie.
mais était, oui, il voulait la place de votre calife à la place du calife. Il voulait Dieu à la place de Dieu. C'est aussi, aussi la jalousie. L'envie. Quelqu'un autre, d'autres exemples?
Les frères de Joseph.
Ouais. C'est souvent celui qu'on en parle dans les réunions d'enfants, hein, parce qu'ils ont toujours, ah, il faut colorier son manteau, toujours les mêmes trucs, mais oui, et on va en revenir à lui dans un instant.
J'ai pensé à tous les pharisiens et les sadducéens envers
Envers
Jésus.
Christ, oui, c'est vrai. C'était envieux, jaloux des personnes qui voulaient le suivre. Sinon, il y a aussi Saül envers David. Et...
Un cap avec la ligne.
Oui.
Je pense que ça.
Mais ça. Oui, je vais pas. Pardon?
David aussi. Bathsheba.
Ouais.
C'est une envie.
Ouais.
C'est très proche, l'envie et la jalousie.
Ouais, c'est pour ça qu'on doit les mettre ensemble, parce que c'est. C'est vrai.
Aussi au frère du fils prodigue.
Ah
ouais.
oui.
Ouais, il était pas aussi heureux que le père. Ouais.
Je vais peut-être en dire un qui va choquer tout le monde, mais Dieu.
Ouais.
Ouais.
C'est un Dieu
Et
jaloux.
on en parlera aussi un peu. Parce que si on va parler de ce que la jalousie est mauvaise, bah, il y a toujours les. Oh, mais Dieu dit que c'est un Dieu jaloux, donc c'est pas mauvais. Moi, je peux être jaloux aussi. Voilà, on en parlera. Mais on voit, hein, c'est la jalousie, ce n'est rien de nouveau. L'envie d'avoir ce que l'autre il a, ce n'est rien de nouveau. Voilà, ça date depuis la création de l'homme. Mais si on veut comprendre, hein, la vérité et ne pas rendre la jalousie quelque chose de permissible, dire oh, mais c'est pas si grave et tout ça, faut la voir pour ce qu'elle est. Et c'est une mine qui frappe fort, hein, dans le sens qu'elle fait énormément de dégâts. C'est pas une petite chose, c'est pas juste oh, mais j'avais envie, oui, j'ai vu ce que l'autre il avait, moi ça m'aurait plu de l'avoir. Il y a, comme dans beaucoup de choses, hein, on peut avoir de petites pensées et on peut laisser ces pensées nous submerger. Ce sont deux choses bien différentes. Hein, il n'y a rien de mal de voir une nouvelle voiture, dire, ce serait bien d'avoir un. Et c'est différent de dire, bah, je suis plus content avec la mienne tant que je n'ai pas celle-là. Et c'est. Mais oui, la jalousie, hein, de voir quelqu'un d'autre à ce que toi tu aimerais avoir, ça va faire énormément de dégâts, même si ce n'est qu'à notre propre foi. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la jalousie, l'envie, attaque notre foi à nous. Parce que ça nous empêche même de pouvoir nous réjouir des bénédictions que Dieu nous a déjà données. Parce qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas. Et on n'est plus en train de regarder à ce qu'on a. De la même façon, en tout cas. On ne va pas dire « j'ai rien ». Même si quand ils sont enfants, les enfants font comme cela. « J'ai rien, j'ai pas de jouets ». Et leur chambre, il n'y a même pas de place pour tous les casés. J'ai pas, ce qu'ils veulent dire, c'est que je n'ai pas eu de nouveaux jouets depuis les 2-3 dernières heures. Et mais c'est ce que la jalousie, l'envie va faire pour nous, avec notre foi. Et on va plus voir les bénédictions que Dieu nous a déjà données de la même façon. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que nous voyons Dieu bénir quelqu'un que les choses se passent bien pour cette personne. Tout ce qu'elle désire, ça lui réussit, comme la Bible dit. Ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être dans l'église, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans la famille, parmi les enfants ou autre. Il dit, mais je ne comprends pas, on essaie de faire ce qu'il faut, mais cette famille-là, on dirait que c'est une famille modèle, tout leur réussit, etc. Et ça peut être vrai, mais ce n'est pas parce que c'est vrai, parce que nous voyons Dieu bénir quelqu'un ou une famille ou des personnes, ses enfants, qu'il est en train de retenir ses bontés envers nous. Mais on fait cet amalgame automatiquement. Dieu fait ça pour eux, alors pourquoi pas pour moi? Mais il est en train de le faire pour toi. Juste pas nécessairement au même moment, pour les mêmes choses que toi tu souhaites, mais il n'est pas en train de retenir ses bontés envers toi non plus. Et Dieu a toujours, et ça je suis persuadé de cela, Dieu a toujours, toujours envie de bénir ses enfants. Parfois, il sait qu'il a besoin de nous faire passer par des moments plus difficiles et moins plaisantes, mais ça n'enlève pas le fait que lui prend plaisir à bénir ses enfants. Et là, on en revient à la vie de Joseph, et surtout du point de vue de ses frères. Je peux bien imaginer la première fois que Joseph leur fait part de son rêve. Il roule un peu des yeux. Voilà, bon bref, on ne va rien dire, c'est... Et quand il voit leur père ensuite leur donner son manteau de couleur et de l'honorer de cette façon, ils ressentent un peu d'animosité. Et quand ils partagent maintenant son deuxième rêve, la Bible dit qu'à ce moment-là, ils sont en colère. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en colère lors du premier rêve, mais des choses se sont accumulées. Il y a une première chose, on roule un peu des yeux, parce que on fait pareil. On voit quelqu'un être béni de Dieu, on voit les choses qui lui réussissent. On dit, ouais, j'aimerais bien avoir ça. Puis on dit, bon, c'est pas grave, je laisse, je vais pas m'attarder là-dessus. Et on trouve qu'on a bien fait parce qu'on a laissé la chose. Puis ensuite, on voit que d'autres, les élèves, disent, ouais, tu sais, tel, ce qu'il a fait, c'est incroyable comment Dieu l'a utilisé pour ceci ou cela. Après là, on dit, là, on roule plus les yeux, on se dit, mais. Ouais, mais je suis sûr que chez lui, il n'est pas comme ça. Et où on se fait des idées, on a un peu d'animosité. Et puis, une troisième chose arrive, et puis là, notre orgueil fait que notre envie, notre jalousie, fait qu'on a maintenant de la colère envers cette personne. Est-ce que cette personne a fait quelque chose de mal, de mauvais, contre nous spécifiquement en plus? Non, pas nécessairement. Mais... Il faut qu'on se rappelle que notre adversaire veut tout faire pour qu'on ne regarde plus à Dieu, pour qu'on doute et qu'on se focalise beaucoup trop sur nous-mêmes. Et s'il peut utiliser les bénédictions même que Dieu donne à quelqu'un d'autre pour le faire, il va le faire. Il va dire, regarde, toutes ces choses qu'il a, pourquoi toi tu ne les as pas? Regarde comment tout lui réussit. Toi, tu as fait des sacrifices pour pouvoir avoir quelque chose et Dieu ne t'a rien donné. Dieu ne se soucie pas de toi. Il préfère lui. Dieu ne t'a pas béni comme il a béni l'autre. Et il veut que tu te focalises sur toi, au lieu de te focaliser sur Dieu. Parce que c'est ça la jalousie. La jalousie et l'envie, ça ne sera jamais de regarder les choses telles que Dieu les voit. C'est de vouloir que les autres les voient comme moi je les vois, même si c'est mal, même si c'est mauvais. Et dès l'instant que j'ai des sentiments de jalousie ou d'insatisfaction, il faut que je m'humilie et que j'accepte que Dieu m'a déjà béni au-delà de ce que je mérite. Dès que j'ai ces sensations, ces sentiments en moi, que je vois quelqu'un d'autre être béni, il faut que j'ai ce réflexe de dire, de toute façon, les bénédictions que moi j'ai déjà reçues, c'est beaucoup trop de ce que je mérite. Je ne peux pas dire que, Seigneur, tu m'as donné, selon ma juste récompense, mais c'est par ta grâce que j'ai reçu ces choses. Quand je vois une personne grandir en maturité, quand je vois quelqu'un être béni dans ses entreprises et avoir du succès dans sa vie personnelle et familiale, je devrais, je ne dis pas que c'est automatique, mais je devrais pouvoir me réjouir avec lui et non envier ce que cette personne a. Je dois être patient, sachant que Dieu il va pourvoir à mes besoins, mais en son temps. Ce n'est pas parce qu'il l'a fait pour cette personne à ce moment-là et que moi je pense que j'en ai besoin tout de suite et maintenant que j'ai raison. Ou que Dieu ne va pas le faire. Mais généralement, notre jalousie, notre insatisfaction, va nous rendre également très impatients. C'est comme l'enfant. Je veux et je le veux maintenant. Je veux ce nouveau jouet, je veux ce nouveau jeu vidéo, et je le veux maintenant et pas plus tard, parce qu'après c'est démodé. Et pour nous chrétiens, on se rappelle, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas l'employé de choix que Dieu aime utiliser, même si c'est vrai qu'il aime nous utiliser, mais pas à cause de qui je suis. Pas parce que je suis quelqu'un un employé si merveilleux. Il m'utilise malgré moi. Je suis un serviteur de Dieu. Et mes yeux, ainsi que le travail que je fais, et que je dois porter les regards sur Dieu, même sur les autres, mais non sur moi-même. Même dans le monde humain, de ce que j'ai pu comprendre, le très bon serviteur, les personnes qui sont là, qui sont dans les manoirs, etc., c'est leur profession, ça se fait beaucoup plus dans d'autres pays, même en Angleterre, ça se faisait largement, et peut-être encore pour les royautés, etc. Le meilleur serviteur, c'est celui qui passe inaperçu. C'est celui qui est toujours là, celui qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on appelle sur lui ou elle, qui fait le travail exactement comme il faut, qu'on n'a pas à se soucier et aller derrière pour vérifier que le travail qui a été fait, mais c'est celui qui n'apporte et n'attire pas l'attention non plus. Si ce n'est rien d'autre, quand ils sont par exemple autour de la table à manger, c'est celui qui sert et qui, sa façon de faire, honore son maître, mais pas lui. Et c'est le genre de serviteur que nous devrions être. Pas celui qui focalise sur lui-même et qui dise « mais moi, moi, moi », mais qui, par son travail et par son service, tourne les regards vers Dieu. Mais il faut, pour qu'on puisse faire cela, pour que les autres puissent avoir leur regard tourné vers Dieu, il faut que nous, on ait notre regard déjà tourné vers Dieu. C'est pas logique de penser qu'on va pouvoir aider les autres à regarder vers Dieu si nous-mêmes, on est focalisé sur nous-mêmes, sur notre sort, notre volonté, mon confort, mes préférences, mes envies. Et en même temps, un serviteur, un bon serviteur, c'est celui qui va servir les invités de son maître sans être jaloux de ses invités. Quoi, tu veux que je serve lui qui a tant et tant de choses, qui me regarde de haut comme si j'étais rien, et c'est pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il c'est quelqu'un d'important, quelqu'un, etc., un noble ou je ne sais pas quoi. Un bon serviteur, il va servir comme son maître l'entend qu'il le fera, sans porter de jugement sur ses invités. Il ne va certainement pas être jaloux de ses invités. Il est serviteur. Ça n'a aucun sens d'être jaloux de ces personnes-là. Si ces personnes n'étaient pas là, si son maître n'était pas là, il ne servirait plus à rien. Il a plus de raison d'être. Il est serviteur. C'est pas juste ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Et c'est ce que nous sommes, et pas seulement ce que nous faisons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Ça peut être parfois tentant de demander à Dieu, « Et moi alors ?» Je te vois bénir tel ou un tel, je te vois pourvoir pour tel ou un tel, et moi. On n'a pas nécessairement de l'animosité envers ces autres personnes que Dieu bénit, mais en voyant Dieu bénir ces autres personnes, ça nous pousse à nous demander, mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ces bénédictions? Et on peut se demander pourquoi il semble que Dieu retient peut-être certaines bénédictions envers nous. Et ce n'est pas... Et c'est là où on fait l'erreur. Dieu ne nous retient pas ses bénédictions. Le fait est très souvent, Dieu a déjà prévu de nous bénir d'une manière très précise, souvent bien plus qu'on ne l'imaginait, mais en voyant les autres autour de nous, on n'a pas envie encore d'attendre. Surtout puisqu'on ne sait pas combien de temps il faut attendre. Quand on a un laps de temps prédéfini, c'est toujours beaucoup plus facile. On dit, ben là, on va être patient parce qu'on sait que vers 20h30, 35, il aura fini et on pourra prier. Puis... Mais s'il n'y avait pas de laps de temps, on dit, il termine quand même. Mais même les enfants, vous savez comment c'est. Et plus qu'on s'approche de Noël, plus qu'ils sont impatients. Mais ce qui aide, c'est qu'ils disent, bon, aujourd'hui c'est le 24, on sait, ou c'est le 23, il faut être patient. C'est pour bientôt. On n'a plus très longtemps à attendre. Puis, on pourra ouvrir tous ces cadeaux. Mais avec Dieu, on n'a pas ce laps de temps prédéfini. Il ne dit pas. Moi, en tout cas, il ne m'a jamais dit, je vais pourvoir à ce besoin dans tant et tant de temps. Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Et parfois, ça nous cause des problèmes parce que parfois, certains de nos besoins, eux, sont limités dans le temps. On a une facture à payer à un certain moment. On a une santé qui a besoin d'être rétablie avant un certain temps, etc., etc., etc. On a besoin d'une voiture qui roule pour une certaine chose. Et Dieu dit, bah, oui, je sais, c'est demain. Demain arrive. Oui, je sais, c'est pour cet après-midi. Et le matin passe. Et il a ses raisons. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas dire pourquoi toutes les raisons sur pourquoi il attend aussi longtemps. Parfois, il répond tout de suite. Parfois, il répond même en avance. Combien de fois, je sais que les donneurs, je pense me rappeler avoir eu des discours similaires. Et pour nous, c'est pareil, où on a reçu un soutien spécifique en plus que d'habitude, quelqu'un qui a envoyé un chèque ou quelque chose pour un montant non négligeable. Et on se dit, je me demande si le Seigneur envoie cela à l'avance parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et très souvent, on l'a mis de côté, et effectivement, quelque chose est arrivé, on avait besoin de cela. Et parfois, le Seigneur, il pourvoit en amont. Et parfois, il attend 1, 2, 3 jours avant, 3, 4, 5 heures avant, pour tester notre foi, pour nous encourager, pour nous... Il a ses raisons, je ne vais pas essayer de dire toutes les raisons qu'il a. Mais... Dieu a toujours envie de bénir. Dieu ne retient jamais ses bénédictions juste parce que aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et si on ne fait pas attention, on devient effectivement beaucoup trop impatient, insatisfait, surtout si on voit les autres recevoir ce que nous désirons ou même avons besoin si pressamment. Et ce qui rendrait la chose encore pire, Si on voit ces personnes recevoir ce que nous considérons qu'on a besoin, et eux, ils la prennent à la légère. Ils reçoivent cette bénédiction, ils disent, oui, bof, pas tant mieux. Et alors que nous, on est là, mais, moi, je la veux, cette berline. Non. Non, mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Nouveau Testament? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Comment pouvons-nous faire ça si on les envie, si on est jaloux? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je sais que je l'ai dit dans le passé, mais parce que ce même passage nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et je trouve, moi j'ai toujours pensé que c'était le plus facile de se réjouir, parce que les gens aiment être heureux et contents. Alors je me suis dit, peut-être le plus difficile, c'est d'avoir cette compassion, de ne pas juger, de montrer de la sympathie, et de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais non, je crois que c'est l'inverse. Il nous est beaucoup plus facile de pleurer, parce que, ah, bon, au moins, ce n'est pas nous. Mais on peut avoir la compassion et sympathiser pour eux. Mais beaucoup de chrétiens ont plus de difficultés avec cette deuxième partie, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et la raison principale pour laquelle je puisse le penser, c'est cette mine de la jalousie et de l'envie. Ne tombons pas dans ce piège. On sait que Dieu connaît notre futur. Dieu connaît nos besoins. Et Dieu aime bénir, bien au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine. N'oublions pas aussi que parfois, c'est vrai que c'est quand même nous qui empêchons ces bénédictions d'arriver. Dieu sait que s'il nous donnait telle ou telle chose à ce moment précis, que cette bénédiction, au lieu de réjouir notre cœur, et au lieu de nous encourager comme elle devrait, ben elle va enfler notre orgueil. Ou elle va enfler notre fierté, ou même nous éloigner de Dieu pensant que on n'a plus besoin de lui maintenant. J'ai reçu ce que j'avais besoin, j'ai plus besoin de prier pour son aide. Alors il attend. Il dit, je veux que tu réalises que sans moi, tu ne peux rien, mais qu'avec moi, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Et de ne pas prendre ces bénédictions pour acquis. Comprendre la vérité sur la jalousie, c'est comprendre que Dieu nous aime et que Dieu ne nous a pas abandonnés et que Dieu ne nous a pas oubliés. Si je comprends ces choses-là, peu importe la manière que je peux voir Dieu bénir les autres autour de moi, ben je me rappelle, Dieu m'aime. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas oublié. Il va prendre soin de moi aussi. Si ce n'est rien d'autre, de voir Dieu bénir les autres devrait me renforcer, m'encourager. Mon tour viendra. En son temps. Selon ce que lui sait dont j'ai besoin. Ce n'est pas parce que d'autres ont ce que nous n'avons pas, ou même ce que nous aimerions avoir, ou ils ont ce que nous avons même besoin, que Dieu nous a oubliés. Ce n'est pas vrai. Il faut nous rappeler que la jalousie, comme tous les autres péchés, c'est un choix de notre part. Ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste quelque chose qui nous submerge. À un moment donné, je choisis. Je peux être attiré, c'est comme toute tentation. On peut être amorcé, attiré, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Oui, je dis oui à la tentation ou je dis non et je m'en détourne. La jalousie et l'envie, c'est la même chose. Je dis oui, ma chair, il y a des choses, mes émotions me poussent à être envieux, à avoir l'amertume, à être comme les frères de Joseph. Mais avec le Saint-Esprit, avec les enseignements de la parole, avec l'aide de Dieu, et des choses qu'on verra plus tard pour nous aider aussi, Dieu peut nous aider à dire non, je ne succomberai pas à cela. Et Dieu peut m'aider à ne pas marcher sur cette mine. Et avec les dégâts que ça va faire. Comprenons bien que toute forme de tentation est une ruse pour nous mener au désastre. C'est tentant, donc il y a quelque chose d'attrayant, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se porte bien avec la jalousie, puisque justement on voit quelque chose qu'on aimerait avoir. Mais à la fin, c'est quand même la mort. C'est la destruction. L'idée d'avoir cette même chose est attrayante. Et le fait de ne pas l'avoir mène facilement au fait d'être jaloux, même envers la personne qui a reçu cette chose. Comme on l'a dit, surtout si on voit cette même personne prendre cette bénédiction à la légère. Dire, ouais, c'est bien, mais j'aurais préféré une couleur différente quand même. Ou la forme, ou la taille, ou qui sait quoi d'autre. Il est toujours bon de se rappeler que Dieu nous aime, que nous avons de la valeur à ses yeux. Et cela, tel que nous sommes. On n'a pas juste de la valeur à ses yeux seulement quand on est obéissant. On avait de la valeur à ses yeux alors qu'on était pécheur. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous, parce que nous avions de la valeur. Il n'a pas fait cela pour des choses qui n'ont aucune valeur pour lui à ses yeux. Alors, on n'a pas besoin d'essayer de, comment dire, de trouver l'approbation de Dieu. Il nous aime déjà. On a déjà de la valeur à ses yeux, tels que nous sommes. Mm-hmm. C'est juste que selon notre obéissance ou désobéissance, on l'attriste, on le réjouit. Mais ça ne change pas notre valeur. Ça ne change en rien qu'il nous aime. Cette vérité devrait nous aider à vouloir l'aimer, à être satisfait avec ce que lui permet dans notre vie et ce que lui décide de nous aimer, de nous aider ou non, de nous donner ou non. On en parlera plus tard, mais quelle meilleure arme pour lutter contre la jalousie, si ce n'est l'amour que nous devrions avoir pour Dieu. Parce que l'envie, la jalousie, ça a tout à voir avec nous. Je veux, je mérite, il faut que je ne suis pas satisfait tant que je. Et qu'on devrait retourner, c'est-à-dire, mais Dieu m'aime, alors même que j'arrête pas d'être désobéissant, Dieu m'aime, alors que j'arrête pas de faillir, Dieu m'aime, et j'ai de la valeur à ses yeux, malgré toutes ces choses. Et si on veut vraiment l'aimer lui, alors mes envies ne sont plus importantes, pas aussi importantes. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus, mais mes envies deviennent au second plan, dire « Seigneur, ta volonté ». Comme Christ le disait lui-même dans le jardin, « Non que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. » Parce que ta volonté est plus importante que ce que moi je veux. Parce que ce que je veux, c'est de te montrer que je t'aime. Et on en parlera. On va s'arrêter là pour ce soir. Comme on a une longue semaine.